Bonjour Natacha.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous.
Et on commence ce journal avec la découverte de lymphocytes T capables de cibler n'importe quelle cellule cancéreuse.
Et cette étude parue dans Nature représente de grands espoirs en immunothérapie. Alors ce ne sont que des résultats préliminaires, de futurs essais cliniques sont prévus, mais cela lève un problème que l'on rencontre avec les thérapies existantes. La limite avec les traitements CAR-T, c'est que les lymphocytes T du patient, un type de globule blanc impliqué dans le système immunitaire, ces lymphocytes T sont extraits puis édités pour cibler des cellules tumorales en particulier. C'est très lourd et ça demande une thérapie entièrement personnalisée. Dans ce travail, cette équipe britannique a utilisé les ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 pour découvrir un nouveau type de récepteur des cellules T, une molécule réceptrice appelée MR1. Véronique Alain-Laurent est maître de conférence en immunologie à l'université de Bourgogne. Franche-Comté.
Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis du sang d'un individu sain et ils ont cultivé des cellules du sang qui peuvent avoir des propriétés cytotoxiques contre les cellules tumorales avec une lignée de cellules tumorales mais qui n'étaient pas du même individu. Et donc à partir de là, ils ont dérivé un clone qui est un clone de lymphocyte T. Alors ce qui était intéressant après, c'est que ce clone-là, donc lui, il peut cibler des cellules qui ne sont pas du même type. Et c'est ça qui nous gêne dans ces approches cellulaires, c'est parce que un lymphocyte T qui va pouvoir tuer les cellules tumorales, il va reconnaître les cellules tumorales, mais il reconnaît ces cellules tumorales si elles présentent l'antigène qui est présenté par des molécules qu'on appelle les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Et ça, c'est des molécules qui sont très différentes d'un individu à l'autre. Et là, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de dériver plutôt des cellules T qui étaient capables de reconnaître des cellules tumorales, mais sans reconnaître ces molécules du CMH du soi. Alors là, ce qui est intéressant avec cette étude de ce clone de lymphocyte T, c'est qu'il est capable de reconnaître des cellules tumorales humaines de types différents, que ce soit du sein, de la prostate, du poumon ou de leucémie. Il est capable de reconnaître donc ces cellules et quelles que soient les molécules de CMH de l'individu, parce que ça ne va pas le reconnaître par les molécules de CMH conventionnelles.
En bref, des gènes humains ont été ajoutés à des gènes de porc. Ça pourrait presque être un scénario de film d'horreur, mais pour créer cette fois de la peau pour des greffes, Natacha.
La transplantation d'organes de porc, ça pourrait être une réponse à la pénurie de donneurs humains. Mais problème, comment contrer le rejet immunitaire? Alors, dans une prépublication sur BioArchive, une équipe chinoise a eu l'idée de créer une chimère humaine porcine. Grâce à CRISPR-Cas9, ils ont génétiquement modifié des porcs en ajoutant 9 gènes humains qui réduisent le risque de rejet et ils ont supprimé 3 gènes clés de porcs qui enclenchent une réponse immunitaire. La peau a ensuite été transplantée sur des singes. La greffe a tenu 25 jours sans complications médicales, un record. Si elle s'avère un sans danger, cette méthode pourrait donner lieu à des essais cliniques.
Cette semaine dans le Journal des Sciences, on a fait un point sur la contagiosité du coronavirus, on a parlé de la découverte d'une nouvelle lignée humaine au Cameroun, d'un mécanisme crucial dans le développement de la maladie d'Alzheimer et d'albatros utilisé pour traquer la pêche sauvage, mais également dans l'actualité scientifique de la semaine, Natacha, et en ultra bref.
Cette semaine, une nouvelle forme d'aurore boréale a été découverte en Finlande. Avec ses formes de dunes et ses reflets verts, elle a été baptisée dune aurorale. Cette découverte offre un aperçu de la haute atmosphère et de ses interactions avec la thermosphère. Selon Scottish Power, l'Écosse pourrait utiliser de l'électricité renouvelable à 100% d'ici la fin de l'année. Le royaume a dit stop au charbon et 80% de son énergie provient des fermes à éoliennes et de l'énergie marine. Avec le prochain et gigantesque parc éolien dans les environs de Glasgow, l'Écosse peut espérer atteindre les 100% en 2020. Et enfin, une invention, la première moto volante a décollé à Annecy. La Lazarette LMV496 peut rouler et voler. Ses roues dotées de turbines basculent à l'horizontale pour voler comme un drone. Pour le moment, durée du vol, 10 minutes.
Et on passe au journal de la science-fiction, ici donc toujours en direct du festival de Gérardmer avec ce sujet. Natacha, des chercheurs ont reconstitué la voix d'une momie vieille de 3000 ans.
Et dans cette étude parue dans Nature, une équipe britannique s'est intéressée à Nissamune, un prêtre de l'Égypte ancienne particulièrement bien conservé. Alors il restait non pas les cordes vocales, mais les tissus mous de son conduit vocal. Il n'était pas question dans cette étude de recomposer des phrases, mais d'écouter le timbre de sa voix. Alors je sens que vous aussi, vous avez très envie de l'écouter. Je vous préviens, ce n'est pas très impressionnant, c'est même plutôt déceptif.
Oui, effectivement, la déception est assez importante, Nadja. On va pas se cacher, hein. On va pas se mentir.
Voilà, un phonème. Alors, pour l'obtenir, ils ont scanné la momie en IRM pour avoir des images très détaillées de son conduit vocal. Et sur la base de cette imagerie anatomique, le tout a été reconstitué avec une imprimante 3D, associée ensuite à un système de synthétisation de la voix. Pascal Bellin est enseignant-chercheur CNRS à Aix-Marseille Université. Il travaille sur les modulations acoustiques de la voix.
Ils ont été capables de reconstituer la forme tridimensionnelle du conduit vocal de cette momie. Et à partir de la forme du conduit vocal, on est capable de déterminer la manière dont il va affecter le son. Vous savez que la voix, c'est le produit des vibrations des cordes vocales dans le larynx, qui sont ensuite amplifiées, modifiées acoustiquement par le conduit vocal supralaryngéal au-dessus du larynx, donc tous nos articulateurs, la langue, le pharynx, le nez. Et la manière dont on positionne ces différents articulateurs, ça va donner une certaine forme du conduit vocal qui va modifier acoustiquement le son produit par les cordes vocales et nous donner ce qu'on perçoit comme différentes phonèmes, différentes voyelles. Et en l'occurrence, la forme d'un conduit vocal est aussi très individuelle. Chaque conduit vocal est unique et donc ça donne un timbre particulier à une voix à cause de justement l'emplacement de ces différentes résonances. Tout ça, ça influe la manière dont le son est propagé et ça va amplifier et atténuer certaines fréquences. Alors donc, une fois qu'on connaît la forme du conduit vocal, on est capable, d'après nos connaissances, d'après des modèles acoustiques, de pouvoir reconstruire les fréquences précisément qui sont amplifiées et atténuées, ce qu'on appelle les formants, qui sont caractéristiques d'un conduit vocal. Sur la base de ces mesures du conduit vocal de cette momie, les chercheurs ont été capables d'identifier quelles étaient les fréquences de résonance et donc de pouvoir les resynthétiser à partir d'une excitation glottale pour nous permettre d'écouter aujourd'hui ce que donnerait le timbre de sa voix et comment les auditeurs qui vivaient à l'époque pouvaient écouter cette voix-là.
En bref, l'armée américaine a dévoilé le nouveau logo de l'US Space Force. Il ressemble étrangement à un autre logo bien connu.
Il ressemble beaucoup à l'insigne de Starfleet, l'organisation d'exploration spatiale de Star Trek. On y voit au centre un symbole Delta, entouré d'une étoile filante et derrière la Terre. Hommage ou plagiat, le logo a fait vivement réagir les fans et les internautes, à tel point que l'US Space Force s'est justifiée. Dans un tweet, elle rappelle que ce symbole était déjà utilisé par les forces aériennes américaines dès 1942, sous-entendu, les logos militaires inspirent Star Trek, pas l'inverse.
Désormais dans les lycées et les universités américaines, le jeu vidéo Fortnite est un sport officiel.
Oui, sport, option Fortnite, hein, c'est possible, avec des tournois nationaux organisés par les établissements scolaires. Les étudiants peuvent à présent rejoindre une ligue compétitive Fortnite dans le cadre de leur parcours scolaire. C'est une mesure initiée par la NFHS, la Fédération Nationale des Associations Sportives de l'ensemble des écoles américaines. L'objectif, hein, c'est aussi de reconnaître le e-sport comme un sport à part entière.
Et on en sait plus sur l'adaptation de Dune de Denis Villeneuve.
Et Denis Villeneuve, le cinéaste québécois qui a réalisé la suite de Blade Runner. Alors sa version de Dune est très attendue. Et une image a fuité des studios Warner. Elle fait comprendre que le film sortira le 23 décembre 2020. Après la première version cinématographique de David Lynch en 1984, après la mini-série de John Harrison en 2000, ce sera donc la troisième adaptation du livre de Frank Herbert écrit en 1965. On sait déjà que Timothée Chalamet, Oscar Isaac et Rebecca Ferguson sont au casting.
Et pour conclure, comme tous les vendredis, par notre rubrique de science improbable, une improbabologie spéciale Festival de Gérardmer, dans la revue Neuroimage, des neurologues ont étudié l'effet d'un film d'horreur sur le cerveau.
Les 37 cobayes ont visionné des films d'horreur parmi les plus effrayants et classés selon leur quantité de jumpscares. L'Exorciste, Reg, The Conjuring. Alors pendant le film, leur activité cérébrale a été mesurée à l'IRM. On sait que la peur, ça augmente la vigilance et les IRM montrent que devant un film d'horreur, nous nous préparons continuellement à réagir à une menace. De plus, la connectivité cérébrale augmente selon l'intensité émotionnelle. Bref, si vous regardez des films d'horreur pour chercher de l'excitation, eh bien, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau.
Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve à partir de lundi pour le prochain Journal des Sciences.